Bonjour à tous, bienvenue au premier épisode du podcast Le Temps d'une Gaufre. Le Temps d'une Gaufre, ça va être un podcast qui va parler de différents sujets. Malheureusement, pas de cuisine, je pense, malgré le nom. Je vous dirais que sur Internet, que ce soit sur Twitch ou d'autres médias sociaux, j'utilise beaucoup la gaufre comme mon porte-étendard, ma marque de commerce. Wafer, la gaufre, tu sais, ça vient avec. Fait que je me disais, pourquoi pas, le concept du nom. Je me suis pas trop cassé la tête, je me disais, bon, Le Temps d'une Gaufre, ça se veut un podcast qui va être semi-long, tout dépendant des épisodes, mais pas trop, je crois. En tout cas, on verra bien comment ça se passe, mais justement. Fait que le temps d'une gaufre, de quoi ça va parler? De beaucoup de sujets. Je dirais que ça va parler de sport, de la technologie, des jeux vidéo, l'actualité. Ouais, ça va dépendre, je dirais, des semaines en semaine, qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité, qu'est-ce qui m'interpelle, qu'est-ce que j'ai le goût de vous parler, en fait, tout simplement. Donc, justement, c'est sûr qu'une semaine, ça pourrait être, je parle d'une thématique par rapport au hockey, puis la semaine d'après, on parle de, sur Twitch, comment qu'on fait pour avoir un stream qui est sous le sens du monde, par exemple. Je veux dire, ça pourrait passer d'une thématique à une autre, mais en même temps, je me disais, ce podcast-là, premièrement, je le fais pour moi, fait que je me dis d'aborder des sujets qui pourraient intéresser d'autres gens, rendre d'autres sphères de la vie, de la technologie plus accessible, parce que je trouve que le podcast, c'est ça qui est le fun pour ça, c'est que on peut parler de n'importe quoi. Donc, en ce sens-là, fait que j'ai découvert ça il y a à peu près 2 ans avec Sous-Écoute, le podcast humoristique de Mike Ward, puis honnêtement, depuis que j'ai découvert cette formule-là sur Internet, je suis accro. Puis je me disais, ça fait un bout que j'avais comme idée en tête d'en débuter un, puis que justement, j'avais tout le temps des idées comme, pourquoi pas? Fait que là, je me dis, bon, faut passer à l'action dans la vie des fois, fait que je sais pas qu'est-ce que ce premier épisode va donner là. Ben, j'ai mon sujet, je suis un peu préparé, mais en tout cas, on va bien voir de qu'est-ce que cette expérience-là, cette activité-là va me mener. Mais je le fais pour le plaisir, et puis j'espère que certains vont écouter pour se divertir en ce sens-là. Fait que, premier épisode, on va commencer, là on est le 2, j'étudie 2 août, mais on est le 2 octobre, qui est la veille du lancement de la saison dans la Ligue nationale de hockey. Donc mon premier podcast, je vais parler de hockey. En fait, je vous dirais qu'à chaque début de saison, c'est sûr que toutes les pronostics, les experts, tout le monde s'exprime sur qu'est-ce qui s'est passé durant l'été avec les agents libres, le repêchage, tout ça. Fait que je vais y aller avec mes prédictions des classements de cette saison selon les mouvements qu'il y a eu cet été et qu'est-ce qui s'est passé en général. Fait que on va commencer comme ça. Bon, donc tout d'abord, on va commencer, je pense, je vais avec la division Atlantique en premier. Division Atlantique, si je regarde l'année passée, j'essaie de faire un petit comparo à l'année passée puis cette année. L'année passée, le Lightning de Tampa Bay avait terminé premier avec 113 points, suivi de Boston, Toronto, Floride, Détroit, le Canadien, les Sénateurs et les Sabres de Buffalo, qui ont fini dernier, qui justement ont repêché Rasmus Dahlin au premier rang au dernier repêchage. Fait que là, cette année, je me dis qu'avec les mouvements qu'il y a eu, en fond, la façon que je vais procéder, c'est que je vais y aller position par position, puis vous dire pourquoi ou à peu près. Mais j'ai juste mon thought process, mais ce que je pense par rapport à ça, un peu mon analyse. Fait que, qui je vois terminer premier de l'Atlantique? Je vois Tampa Bay. Tampa Bay, ils ont une équipe incroyable. Je veux dire, leur noyau de joueurs est juste trop solide. Comparativement à l'année passée, quand tu regardes les joueurs, tu sais, je veux dire, t'as des gars comme Stamkos, t'as des gars comme Kucherov, Victor Hedman, Tyler Johnson, Palat, je veux dire, les Killorn, Ryan McDonough, je veux dire, c'est tous des joueurs qui sont très solides de ce côté-là, avec Vasilevski dans les buts. Je me dis que l'année passée, ils ont une très bonne saison, puis je vois pas pourquoi que cette année, ils finiront pas premiers de leur division. Honnêtement, je sais que Toronto, ben, je dirais tout de suite, Toronto, je les vois deuxième. C'est sûr que Toronto est la plus grosse menace de Tampa Bay en ce moment. Parce que les Maple Leafs, on va se le dire tout de suite avec l'acquisition qu'ils ont faite cet été de John Tavares, ça change les cartes en maudit. Puis les Maple Leafs ont une très jeune équipe. Je veux dire, ils ont été longtemps dans la cave ces dernières années. Puis je pense que justement, ces années de misère-là, finalement pour eux autres, commence à porter fruit. Parce que l'année passée, ils ont fait les séries. Ils ont perdu contre Boston en 7 matchs, je me souviens bien, en première ronde. C'est sûr que la défensive des Maple Leafs est un peu à laisser à désirer, mais quand tu regardes l'équipe, une jeune équipe justement, avec l'ajout de John Tavares qui a passé des Islanders à Toronto, tu te dis, ouais. Déjà là, juste le fait que les Maple Leafs aillent chercher un joueur de ce plan-là qui a joint leur équipe, c'est incroyable. En plus que t'as Austin Matthews qui a justement l'année passée une très bonne saison. Des gars comme Mitch Marner, Nazem Kadri, Morgan Riley, avec Anderson dans les buts. Je vois honnêtement Toronto terminer proche de Tampa Bay. Mais je vois quand même, je pense quand même que le Lightning a ce qu'il faut pour terminer au deuxième rang. Du Lightning. Non, Lightning au premier rang, puis le Toronto au deuxième. Mais je pense que l'écart entre les deux équipes va être assez serré, honnêtement. Ça va être une des bonnes courses à voir cette année au côté du ranking. Troisième, je dirais Boston. Boston a une grande bonne saison l'année dernière. L'an dernier. Ils ont pas fait tant de mouvements que ça du côté de leur alignement cette année. Je veux dire, ça reste les classiques Patrice Bergeron, Pasternak, Tuukka Rask, Brad Marchand, c'est des gars fiables. C'est sûr que Chara commence à être vieux un petit peu, mais en même temps, avec le monsieur dans les buts, le petit Tuukka Rask, je dis le petit, mais il est pas petit. Mais c'est ça, je veux dire, les Bruins ont quand même une très bonne profondeur. Puis je me dis que je regarde les autres équipes dans la division Atlantique, honnêtement, c'est la division la plus faible cette année, je crois, en termes de qualité d'équipe. Puis justement, je me dis que Boston, ils sont pas top tier, comme on pourrait dire, comme Toronto. Ben, ils ont une très bonne équipe, mais justement, je les vois comme, justement, finir en troisième place, je pense que ça serait logique pour eux autres dans la division. Et ensuite, en quatrième position, je vois les Panthers. Les Panthers, c'est une équipe quand même jeune qui me surprend, qui ont passé très près l'année passée de faire des séries. Ils étaient, je pense, à un ou deux points, si je me souviens. Ah, c'est ça. Ils avaient vraiment connu une fin de saison remarquable. Ils ont un très jeune alignement, tu sais, je veux dire, des gars comme Alexander Barkov, Jonathan Huberdeau. C'est sûr que dans les buts, t'as Luongo puis James Reimer. Tu sais, c'est... C'est sûr que ça reste à surveiller pareil. Je trouve qu'il y a une progression intéressante du côté des Panthers. C'est avec des gars comme Nick Bjugstad, Ekblad. Je veux dire, le futur des Panthers, c'est quand même très intéressant. Ça, c'est clair. Puis je les vois terminer quatrième dans la division. J'oublie aussi, c'est vrai, ils ont été chercher Mike Hoffman. Mike Hoffman, dans le fond, il jouait avec les Sénateurs. Il y a eu... je pourrais dire le drama avec entre la blonde de Mike Hoffman et Derek Carson, en tout cas, du gros trouble. Puis là, justement, dans le fond, les Sénateurs par la suite ont échangé Mike Hoffman aux Sharks de San Jose. Mais les Sharks sont littéralement par après échangé Hoffman la journée même, me semble, aux Panthers. Fait que là, les Sénateurs ils ont échangé un de leurs meilleurs joueurs qui s'est ramassé finalement dans une équipe rivale de leur division. Donc, disons que. Pour ce que les Panthers ont donné pour, c'est une très bonne échange, justement. C'est le genre de gars qui peut t'aider à faire les séries. Puis je vais parler des wildcards après, mais en tout cas, les Panthers, je les verrai en série, honnêtement, cette année. Ils ont passé proche l'année passée. Ils ont une bonne jeune équipe. Je me dis pourquoi pas. À voir les autres équipes dans la division Atlantique, parce que là, par après, cinquième, je vois Buffalo. Buffalo aussi, ils sont très jeunes. Je veux dire, ils ont repêché Rasmus Dahlin. Ils ont le dernier pick, le premier choix repêchage, en fait, cet été. Ils ont fait aussi l'acquisition de Jeff Skinner, des Hurricanes, que cet échange-là, j'ai pas trop compris pourquoi que les Hurricanes ont pas reçu grand-chose, me semble, pour M. Skinner. Mais bon, je pense que Buffalo était bien content de cet échange-là. Mais en même temps, ils ont donné Ryan, à mon avis, leur meilleur centre, qui était Ryan O'Reilly, qui est rendu à Saint-Louis. Fait que... J'ai hâte de voir, j'étais un peu ambivalent par rapport au sort. C'est pour ça que je les ai mis 5e dans l'Atlantique. T'sais, ils n'ont pas de mauvaise équipe, justement. T'sais, ils ont des Kyle Okposo, ils ont des Rasmus Ristolainen. Ils ont des bons joueurs. Ils ont Monsieur Jack Eichel, que j'ai pas dit, mais Eichel, c'est quand même un. J'ai hâte de voir ce que Eichel va produire cette année pour ses fameux sorts. Mais c'est sûr que là, je pense, justement, je trouve que c'est en cinquième place de l'Atlantique. C'est une place raisonnable pour eux cette année. Je les vois faire des gains intéressants, mais quand même, je les vois pas en série du tout. Suite à ça, en sixième position, je vois Détroit. Détroit, de ce que je me souviens cet été, les grosses acquisitions qu'ils ont faites. Il y a Jonathan Bernier, qui jouait avec l'Avalanche l'année passée, qui a eu une très bonne saison avec l'Avalanche comme second violon, si je peux dire, à Varlamov. Mais Varlamov s'était blessé, donc il a quand même rendu de précieux services à l'Avalanche, qui a fait les séries par le poil d'un cheveu. Je sais que c'est pas une expression, mais en tout cas, par le poil d'un cheveu. Mais oui. Puis justement, il y a aussi Thomas Vanek, qui est quand même un gars qui change à peu près d'équipe à tous les années, mais Vanek, c'est pas un gars sous-estimé quand même, un gars qui a encore une touche offensive non négligeable. C'est sûr, c'est pas le meilleur gars two-way, comme qu'ils disent, dans les deux sens de la patinoire défensive, mais c'est le genre d'équipe, justement. Il y a des jeunes comme Anthony Mantha, justement, t'as Larkin. C'est sûr que ça, c'est le futur est intéressant en ce sens-là. Fait que j'ai hâte de voir comment qu'à Détroit ça va se passer. Je trouve que au repêchage en plus cet été, je trouve qu'ils ont fait des bons choix. Ils ont repêché, ils ont eu Zadina, que bien des gens à Montréal auraient aimé. Philippe Zadina, l'attaquant des Moussettes d'Halifax. Les Moussettes, moi, me semble, c'est les Moussettes. Puis, justement, Joe Veleno, qui est un autre attaquant, un autre joueur de la Ligue junior majeure de Québec, que sa cote a quand même baissé, mais finalement, c'est Détroit qui a mis les mains dessus en fin de première ronde, parce que, en fait, c'est avec le choix des Golden Knights, il me semble, qu'ils ont pu repêcher Joe Veleno en échange de Tatar, qui est rendu avec Montréal, justement, de ce côté-là. Fait que là, je vois Détroit, je les vois terminer au 6e rang de la division Atlantique. Ensuite, les Canadiens. C'est sûr que le Canadien, c'est Marc Bergevin, on en entend souvent parler, puis il parle de reset. Moi, honnêtement, je trouve plus que c'est un rebuilding, c'est une reconstruction qu'un reset. Parce que, je veux dire, avec ce qui s'est passé récemment, j'ai Pacioretty qui part pour Vegas. Ça, c'est sûr que ça, c'est quoi? L'échange avec Vegas, j'aime quand même bien. Nick Suzuki, c'est un prospect, c'est un espoir qui va aider le Canadien dans le futur. Je pense que c'est une très bonne échange pour ça. Thomas Tatar, c'est un gars qui peut quand même marquer des buts. Un gars qui marque en moyenne entre 15 à 20 buts par année. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer cette saison. Il a montré des bonnes choses durant la pré-saison. Mais ça reste encore à voir. C'est sûr qu'aussi, il y a Galchenyuk qui est parti. Alex Galchenyuk, justement, qui est échangé au Coyotes de l'Arizona contre Max Domi. Justement, Domi qui, avec le coup qu'il avait donné à Aaron Ekblad, qui s'est fait suspendre pour le reste de la pré-saison. On l'a pas vu trop, mais j'ai hâte de voir pour le premier match demain qu'est-ce qui va se passer avec lui, tu sais, de voir si... C'est sûr que tu peux pas vraiment juger un joueur en ayant juste vu jouer un match, mais vu qu'il n'y a pas eu depuis un petit bout, depuis deux semaines, on va dire, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, comment que Claude Julien va faire ses trios, justement, dans ce sens-là. Mais je me dis que le Canadien, je les vois quand même finir bas. La seule façon que je les verrais peut-être finir plus haut, Montréal, c'est ça va dépendre de Carey Price. Honnêtement, t'es à Shea Weber qui est blessé pour un bout de... Jusqu'à quand? Sûrement jusqu'en 2019. Les dirigeants restent vagues là-dessus, mais t'sais, le meilleur défenseur est pas là. Ça va être parti pour un bout. Ça va être tough. Genre, les autres défenseurs, il faut qu'ils prennent les bouchées d'eau à Mondi. Puis t'sais, Carey Price, c'est ça qui a une saison en dents de scie l'année passée. Mais ça reste Carey Price pareil. Puis il a prouvé qu'il était un gardien top dans la ligue. Je sais pas si cette année ça va être ça ou il va. Les déboires vont continuer. Bon, en tout cas, moi, selon moi, avec les prédictions que je fais, je pense que le Canadien va continuer à avoir de la difficulté, mais si la seule chance que je verrais Montréal faire les séries, c'est que Carey Price ait une saison incroyable. C'est la seule façon que je peux voir le CH être un aspirant aux séries. Mais je me dis que tant qu'à ça, c'est aussi bien de finir en fond de cave puis essayer de pogner d'autres jeunes. Parce que justement, le vent de jeunesse avec Kotkaniemi, justement, il va jouer. Il y a aussi l'acquisition de Joel Armia qui va être intéressante à voir. Tu as des gars comme justement Gallagher, Lekkonen, Philippe Dano. C'est tous des joueurs qui... Il y a beaucoup de joueurs qui ont des saisons décevantes l'an dernier. Fait que, il y a des joueurs. Mais c'est pour ça que je me dis Il y a de l'espoir. Mais je crois que le CH va quand même finir loin dans cette division. Suite à ça, ben les derniers, ben, le dumpster, on va dire, qu'est-ce qui se passe à Ottawa? Eugene Melnyk, maintenant, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est... Il échange Eric Carlson, il échange Mike Hoffman. Stone qui est signé un an à 7 millions, je pense, ou à peu près. C'est Matt Duchesne qui est là, mais que Ottawa a donné beaucoup. Tu sais, Kyle Turris, puis là, l'Avalanche a le premier choix des Sénateurs cette année. Ça, ça va être de quoi? Je suis un fan de l'Avalanche, donc moi, je suis très content de voir ce qui se passe à Ottawa. Ça me dit que le choix d'Ottawa va être très haut au repêchage cette année. En tout cas, si je me fais ce qui se passe, donc... Non, Ottawa, je veux dire... Il y avait une bonne... Il y a deux ans, ils ont passé à un match de faire la finale de la Coupe cette année, quand ils y pensent. Puis là, tu regardes avec tout ce qui s'est passé, tous les échanges, toutes les... Je comprends même... S'ils finissent pas dernier de la division Atlantique, je comprends pas. Fait que c'est pour ça que je les vois derniers, avec tout ce qui s'est passé, tous les joueurs qui ont échangé. C'est sûr que Brady Tkachuk, au moins, il est signé. Je veux dire, il y a des gars comme Thomas Chabot, ils ont quelques prospects, quelques espoirs intéressants, je pourrais dire. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Ça va pas bien. Surtout un gars, mettons, comme Jean-Gabriel Pageau, son apport est quand même intéressant côté offensif et défensif. Il est blessé pour quelques mois en plus. Fait que disons que ça va être difficile à Ottawa cette année, à mon avis. Fait que faudrait que, pour faire un petit récapitulatif, Atlantique, Tampa Bay, Toronto, Boston, Floride, Buffalo, Détroit, Montréal, Ottawa. C'est mes prédictions. Vous pouvez pas être d'accord, vous pouvez être d'accord. C'est des prédictions, c'est le faire le jeu de tout ça. Fait que moi, pour la division Atlantique, c'est ce que je vois. Je vais aller ensuite dans la division métropolitaine. Puis qu'on prend les champions de la Coupe cette année, les Capitals de Washington. Je me dis que les Capitals, une très bonne équipe, je les vois finir encore... Non, ils n'ont pas fini premier l'année passée dans la division, c'est vrai, mais cette année, je les vois finir... ils ont fini premier, excusez. Ils ont fini premier? Oui. Oui, ils ont fini premier devant les Pingouins. Fait que je les vois finir premier encore dans la division. Je veux dire, le noyau est encore là. Ils ont signé John Carlson, t'sais, les gars comme Ovechkin, Backstrom, Kuznetsov, il y a une attaque du tonnerre, une bonne défensive, puis Braden Holtby dans les buts, c'est un très bon gardien qui a fait ses preuves et qui a maintenant une Coupe Stanley et qu'Alexander Ovechkin a sa Coupe Stanley aussi. Donc, je crois qu'il va y avoir une bataille très intéressante avec les Pingouins pour la première position dans cette division-là. Mais au final, je vois Washington finir premier encore cette année. Gagner la Coupe, je sais pas, mais en tout cas, finir premier leur division, c'est très plausible. Ensuite, ben, comme j'ai fait un scoop en parlant de ça. Je vois les Pingouins deuxième de la division. Mais tu sais, les Pingouins, c'est comme le deuxième no-brainer. Certains diront qu'ils pourraient finir premier. C'est très débattable. Je suis même d'accord. Ça serait très possible qu'ils pourraient finir premier. Avec l'équipe qui ont là, je veux dire, avec Sidney Crosby, avec Malkin. Là, ils ont pogné Jack Johnson en plus. Pour acheter de la profondeur à la défensive. Ils ont Christopher Le Temps, ils ont Phil Kessel. Je veux dire, c'est une attaque redoutable. Tu te dis, ouais, en plus, ils ont tellement de profondeur. Ça va être une équipe dangereuse, ça c'est clair et net. Puis justement, je vois les Pingouins terminer deuxième, comme je vous disais. Fait que, ouais, avec Matt Murray dans les buts. Murray qui est quand même, justement, l'année passée, finalement, les Capitals ont été capables de battre les Pingouins parce que les Pingouins étaient vraiment la bête noire des Capitals en série. Ils battaient très souvent. Donc là, justement, le fait qu'ils ont passé par-dessus ça l'année passée, je me dis que... certains joueurs, j'oublie, c'est comme Genzel, comme Brassard. Il y a plein de gars incroyables avec les Pingouins. C'est Oli Mata, tout ça. Tu regardes le roster, je me dis, ouais, c'est une équipe dangereuse à ne pas sous-estimer. En troisième place, après, je vois les rivaux des Pingouins, les rivaux d'État, les Flyers. Les Flyers, ils vont aller chercher cet été James Van Riemsdyk de Toronto. Je dirais que c'est leur acquisition majeure. Leur côté. Ils ont des gars comme Sean Couturier qui a eu toute une saison l'année passée. T'as des gars comme Claude Giroux, Jakub Voracek, Shane Gottesbeer, Wayne Simmons, c'est Nolan Patrick, le deuxième choix. Je veux dire, ils ont des... Provorov, le jeune défenseur aussi, Ivan Provorov. Ça va être une équipe... c'est encore dans les buts, je trouve, le mystère des Flyers, mais en même temps, je trouve qu'il y a assez une force de frappe, puis... L'année passée, ils ont quand même fait les séries. Oui, si je me souviens bien. Ils ont fini 3e. Ok, dans le fond, mon top 3 est zéro original parce que c'est le top 3 de la division l'année passée. Ouais, ben. Je viens de voir le classement. Ok, fait que là, ouais. Patrick, là. Ben, en fait, même mon top 4. Non, top 5. Ouais, top 5 est identique à ce qui est arrivé l'année passée. Waouh. Fait que ça. Jouer les Flyers, terminé 3e de Philadelphie. Ensuite, les Blue Jackets. Blue Jackets, c'est quand même. Ils n'ont pas fait de grosses acquisitions notables vraiment de ce que je me souviens, tu sais, de quoi d'éclatant, mettons. Mais tu sais, ils ont quand même des gars comme justement Pierre-Luc Dubois, t'as Boone Jenner, t'as Panarin, évidemment. Pourquoi j'ai pas dit Panarin en premier? J'ai hâte de voir ce qui va passer avec Panarin parce que c'est sa dernière année de contrat avec les Blue Jackets. Puis il y avait des rumeurs qu'il serait peut-être pas intéressé à signer avec eux, mais donc en tout cas, on verra bien qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là. Ils ont Seth Jones à la défense qui est excellent. C'est ce genre de gars que je verrais comme candidat au Vizino, pour Vizino Norris. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée d'eau. Oh, Seth Jones qui était forcément qu'il y a une saison du tonnerre l'année passée. T'as Sergei Bobrovsky dans les buts, je veux dire, c'est les Jackets, c'est quand même fait peur l'année passée aux Capitals en première ronde. Ils avaient gagné les deux premiers matchs, si je me souviens bien. Perdre la série par la suite, mais tu sais, tu disais bon, est-ce que les Capitals sont dus pour perdre en première ronde? Mais non. Finalement, les Jackets sont perdus en 6 contre. En 6 contre les Capitals en première ronde, donc c'est ça. Je les vois quand même finir 4e de la division. Ensuite, les Devils. Les Devils, c'est quand même intéressant parce qu'ils ont une bonne équipe. Ben, ils ont eu des bons résultats l'année passée. Puis quand tu regardes, tu te dis bon, Taylor Hall a une saison de la mort. Gagne des trophées l'année passée, justement, en lien avec ça. C'est lui qui. C'était l'étoile montante de l'équipe. T'as les gars. Ben, t'as le premier choix de. Pas cette année, mais l'année passée, Nico Ischier. Ischier. Je le prononce mal. Excusez mon accent suisse, c'est pas très on point. Mais ça les Devils ont une jeune équipe. Ils ont Will Butcher, qui est un bon défenseur. Ils ont fait aussi l'acquisition de Sami Vatanen des Ducks. Que je pense que c'est une bonne échange pour eux autres. T'sais, Corey Schneider dans les buts. Ils ont été chercher Eddie Lack aussi. Mais donc je trouve que c'est pas une équipe qui a beaucoup de vedettes, mais l'année passée, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de jouer dans la cour des grands. C'est sûr qu'ils sont. Au final, ils ont perdu contre le Lightning en première ronde, mais quand la saison d'avant avait commencé, je me souviens que les Devils ont fini avec l'Avalanche dans la cave. Okay, l'Avalanche avait vraiment fini dans la cave. Je suis l'Avalanche, il avait fait 48 points. En 2016-2017. Les Devils aussi avaient terminé dans la cave. Justement, ils avaient eu le premier choix. Puis là, personne. Je me souviens, je lisais les threads sur Reddit. Les gens disaient Colorado, les Devils, puis les Golden Knights. On donne pas trop cher de leur faux. Je me souviens, les gens parlaient de ça. Puis finalement, ben, les trois équipes ont fait les séries l'année passée. Donc, tu sais, des fois, faire des prédictions, ça peut. Il y a des équipes qui sont juste bon, ok, on tourne, on trouve un moyen de se concentrer, on trouve un moyen de gagner des matchs, puis justement, on est constant, on est capable, on bat tout, puis ça finit là. C'est du jeu d'équipe, ça se fait, puis justement, les Devils, ouais, en tout cas, j'ai hâte de voir. C'est sûr que Taylor Hall va jouer un. Je pense que les Devils, justement, ça va être Taylor Hall puis Schneider qui vont jouer un rôle primordial là-dedans. Avec Ishir un peu aussi, j'ai hâte de voir comment il va se comporter. Il a quand même fait une cinquantaine de points l'année passée, fait que. Mais Taylor Hall avait toute une saison. Je comprends pas que. En tout cas. Edmonton. Ouais. Ils doivent regretter leur échange contre Adam Larson. Mais bon. Fait que les Devils 5e de la division. Ensuite les Rangers. Les Rangers sont comme en reconstruction. De leur côté, ils n'ont pas des mauvais joueurs, ils n'ont pas une mauvaise équipe, ils ont encore Henrik Lundqvist des buts, ils ont Shattenkirk à la défense, Kevin Shattenkirk, mais ils ont déjà une équipe, ils ont tradé Ryan McDonough l'année passée au Lightning, t'sais, tu voyais qu'il y a comme une philosophie, ils ont assumé, bon, on va aller en reconstruction, ça fait un bout qu'on a, Tu sais, je veux dire, les Rangers ont eu leur chance. L'année qu'ils ont battu le Canadien, 2014-2015, se rendre en finale de la Coupe Stanley, ils ont perdu par la suite contre les Blackhawks. Bon, les Blackhawks, me semble. Mais bon, là, disons que les. Ils ont assumé que, tu sais, ils vont aller vers un rebâtir. Tu sais, il y a quand même des noyaux, des pièces au noyau intéressantes de joueurs comme Zibanejad, Matt Zuccarello, Kevin Hayes, Fast. Tu sais, c'est pas. Ils ont pas de mauvaise équipe. Brady, Shea, Mark Stahl, tu sais, c'est pas de mauvaise équipe, mais je les vois pas faire les séries cette année. C'est. Pour eux, leur futur va être intéressant par contre, mais pour ça je les mets en 6ème position. Ensuite, les Hurricanes. Les Hurricanes de la Caroline ont une saison spéciale l'année passée. Ils sont quand même battus longtemps pour essayer de faire les séries, mais au final, ça n'a pas été concluant. Malheureusement, ils ont fait une grosse échange avec les Flames cet été. Ils sont allés chercher Dougie Hamilton, le défenseur, puis. C'est qui ont été chercher Ferland. Matt Furlan, puis j'ai un blanc. Peut-être un joueur pêchage. Je ne me rappelle. En tout cas, contre Noah Hanifin puis Elias Lindholm. Mais j'ai hâte de voir comment cet échange-là va tourner pour les Hurricanes. Ils sont allés chercher aussi Peter Mrazek. Ils ont plus Cam Ward. Ils ont repêché deuxième au repêchage cet été avec Andrei Zvechnikov. Je vais mal prononcer son nom. Excusez mon accent russe, c'est pas parfait, malheureusement. Mais tu sais, il y a des jeunes joueurs aussi intéressants, t'sais, comme Sébastien Aho, justement. J'ai hâte de voir, tu sais. Fechnikov, on l'a dit. Il y a Tere Vainen. Tu sais, à la défense, il y a Justin Falk encore. Il y a Aiden Fleury. Il y a des bons jeunes défenseurs. J'ai hâte de voir comment ils vont se comporter. Mais je pense que, au final, ça va être une autre saison difficile pour les Hurricanes. C'est pour ça que je les vois terminer en 7e. Place de la division métropolitaine. Puis pour conclure la division métro, ben 8e, les Islanders. Les Islanders ont perdu John Tavares aux mains des Leafs cet été. Donc il est passé de New York à Toronto, comme j'ai mentionné précédemment. Puis justement, je pense que ça va leur faire mal, définitivement. Matthew Barzal a eu une excellente saison l'année passée. J'ai hâte de voir s'il va répéter ses exploits. Parce que les Islanders sont quand même quelques bons jeunes joueurs. Il me semble que je dis ça pour chaque équipe. Mais c'est ça qui est fou cette année. Ben, pas cette année, mais depuis quelques années. Je trouve que la parité dans la Ligue nationale de hockey est quand même incroyable. Puis justement, il y a certaines équipes qui leur manquent pas grand-chose pour faire la différence entre pas être en série et être en série. Des fois, c'est juste, mettons, manque de profondeur à la défensive, questionnement dans les buts, ou tu sais, mettons... Un manque d'apport à l'attaque qui est soutenu. Mais tu sais, quand on regarde les joueurs à New York, c'est à Barzal, t'as Anthony Beauvillier qui va quand même faire une. Qui sera quand même intéressant de suivre son développement. T'sais, Jordan Eberle, t'as Anders Lee qui comptait beaucoup de buts avec John Tavares. J'imagine qu'il va compter beaucoup de buts avec Barzal cette année. T'sais, t'as des vétérans comme Andrew Ladd, justement. T'sais. Puis à Def, t'as des gars comme Nick Leddy. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Boychuk, Johnny Boychuk. Pis c'est sûr que t'sais, d'un but avec Thomas Greece puis Robin Lehner, ils ont pu y rester la balade. J'ai hâte d'y voir finir dernier. Non, c'est pas vrai. Mais après, ils vont finir dernier de leur division, à mon avis. Fait que pour résumer, métropolitaine, Washington, Pittsburgh, Philadelphie, Columbus, New Jersey, les Rangers de New York, Caroline et les Islanders pour finir. Fait que là, du côté wildcard, je suis wildcard. Non, pourquoi pas. Fait que dans le fond, je vois dans le fond, ça fait beaucoup de dans le fond. Fait que dans l'Atlantique, mon top 3, ça serait Tampa Bay, Toronto, Boston. Donc maintenant, Boston, Toronto, ça prendra en première ronde. Puis métropolitaine, j'ai Washington, Pittsburgh, Philadelphie. Fait que là, j'ai mis Panthers puis Columbus en quatrième de chaque. Puis je crois que ce serait les deux équipes qui feraient les séries en wildcard dans. Les deux équipes repêchées entre guillemets en français. J'aurais bien les Panthers. Je trouvais que l'année passée, le momentum qu'ils ont eu était intéressant. J'aime leur jeune équipe. Ils ont des, je trouve que avec la faiblesse de la division atlantique, justement, je crois que ça va être facile, plus facile pour les Panthers d'avoir des victoires contre le Buffalo, contre le CH, Détroit, Ottawa. Donc, j'espère que les Panthers vont faire les séries cette année. Puis Columbus sont quand même aussi. Ça fait 2-3 ans qu'ils font les séries d'affilée. tout en perdant tout le temps en première ronde. Ils n'ont jamais gagné de série à date, mais ils ont un noyau intéressant. Justement, ben, tout demande qu'est-ce qui se passe avec Artemi Panarin, s'il garde jusqu'à la fin. Parce que Panarin a vraiment été comme la grande vedette là. Ben, lui et, je ne veux pas avoir de crédit à Bobrovski, Sergei Bobrovski, qui est excellent, un excellent gardien. Je veux dire, leur filière russe, c'est ça qui les amène. Ben, j'ai d'autres énergies. Je veux dire, Pierre-Luc Dubois l'année passée, une très bonne saison. T'as des gars comme Bjorkstrand, t'as Foligno, t'as Boone Jenner. Ils ont des joueurs, ils ont d'excellents joueurs. Puis justement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais bon, je vois Columbus et Panthers comme wildcard, comme équipe repêchée pour faire les séries. On va passer à l'Ouest. L'Ouest. Commencer par la division centrale, désolé, j'ai pris une autre gorgée d'eau. Je me donne des libertés de même. Fait que dans l'Ouest, ce qui va être intéressant, dans la centrale, j'ai trouvé que la centrale, j'ai envie de dire, c'était la plus difficile à mettre les pièces au puzzle, au casse-tête, pour mettre les positions, mais la Pacifique aussi. Parce que la division Pacifique, les équipes ont fait des mouvements récemment. Je pense que c'est la Pacifique qui a été. J'ai eu le plus de misère à mettre les équipes, à établir une certaine hiérarchie là-dedans. Je me disais, ouais. Si j'avais fait ça il y a un mois, ça aurait pu changer bien des choses. Mais là, avec les mouvements, je me disais, bon, si je fais un podcast, je parle d'hockey, je fais des prédictions, je suis aussi bien de le faire avant que la saison commence. Puis c'est de même que ça va se passer. Fait que. On verra bien. Fait que je vais commencer par la division centrale. Première position de division centrale, j'ai mis les Jets de Winnipeg. Je trouve que les Jets n'ont pas fait de grands changements à leur équipe cet été. C'est sûr qu'ils ont perdu Paul Stastny aux mains des Golden Knights. Mais je me dis que les Jets, ils ont une très jeune équipe. Ils ont des gars comme Patrick Laine, Scheifele, Brick Wheeler. Ils ont un très bon noyau de joueurs. Dustin Bufflin à la défense. C'est... Ils ont une très bonne équipe, définitivement. Puis je me dis que je les vois finir premier. Je trouve que le momentum qu'ils ont eu l'année passée, ils sont rendus très loin en série, ils sont fait battre par les Golden Knights au final, mais avec Ellie Buck, d'un but. Je trouve qu'il y a une équipe très complète. Les gars comme Trouba, Tyra Myers, les gars comme Brian Little, Heller, Nicolas Heller. Il y a une très bonne... Très bonne équipe, je pense que les Jets peuvent encore avoir de très hautes prétentions cette année avec la saison qu'ils ont eu l'année passée. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait qu'ils se rendent loin encore en série. Même que je le considère comme des contenders, des aspirants à la coupe. Là. Il y a d'autres équipes, évidemment, mais les Jets, à mon avis, en font partie. Puis l'équipe suivante aussi, les Predators de Nashville. Nashville, c'est incontournable. Je trouvais ça dur en. Mais c'est comme un peu la division atlantique que je parlais tantôt, ou la division métropolitaine. T'sais. Nashville pourrait facilement finir premier, là, honnêtement. Mais je vois Winnipeg plus. Pourquoi? Je pense que, justement, Winnipeg, l'année passée, ils n'ont pas fini très loin des Prédateurs. Je sais que c'est les Prédateurs qui ont été champions, là, qui ont eu plus de points. Mais je pense que les Jets, cette année, vont... continuer sur leur lancer aussi, mais ça va vraiment attirer encore. T'sais, comme l'année passée, je regarde l'écart entre les deux équipes, les Predators ont fini avec 3 points de plus que les Jets, là, ce qui est quand même incroyable. T'sais, tu mettrais les Jets dans n'importe quelle autre division, ils auraient fini premier. Parce que je regarde le classement, Lightning a eu 113 points l'année passée, les Capitals 105, les Golden Knights 109, les Jets ont fini avec 114. Fait que t'sais, ça va être chaud entre les deux, honnêtement. Mais pour se renchérir sur les Prédateurs, c'est sûr que cette année, il va y avoir Philip Forsberg encore à surveiller, t'as Ryan Johansson, t'as Kyle Turris, t'as la défense, t'as Piqué Souban, que bien les gens de Montréal doivent s'ennuyer un peu, t'as Yorman Yossi, ils ont re-signé Dan Amnius, qui a été repêché, je pense, par les Prédateurs, il doit faire 15 ans au moins, même plus. Ryan Ellis, évidemment, Mathias Elcombe, ils ont vraiment, côté défensif, c'est incroyable. Je dois avouer, ils ont vraiment une très bonne défensive. Mais je pense que je mets les Jets en premier. Je trouve que les Jets ont plus de punch à l'attaque, peut-être. Puis j'ai l'impression que Elibuck va avoir peut-être une meilleure saison que Pecorine. Mais je pourrais peut-être me tromper. Je dirais que c'est pour ça que je mets les Jets en premier. Quand j'y repense comme fois avec mon feeling, je suis allé vraiment au feeling au début. Mais là, quand j'y repense, je me dis que... Ouais, je pense que c'est justement pour ça que j'ai mis les Jets en premier. Mais Nashville, comme je vous dis, ils peuvent finir premier. Je serais pas surpris là. Genre je serais pas surpris pendant tout là. Je serais comme bon ben c'est pas étonnant. Mais ça va être une lutte chaude entre les deux équipes. Que je voulais voir finir deuxième. Ensuite, en troisième place, Saint-Louis. Saint-Louis, qui l'année passée, il se battait pour le dernier match, pour faire les séries. Dernier match impliqué les Blues et l'Avalanche. Là, je mets mon chapeau de fan, de fan biaisé, mais. Justement, tu sais, les Blues ont perdu l'Avalanche au dernier match de la saison, que les deux équipes s'affrontaient, qui se battaient pour la dernière place en série disponible. Ça, c'était quand même assez fou comme scénario. Ça faisait quelques années, ça n'était pas arrivé que deux équipes s'affrontent vraiment au dernier match, qui se battent pour le dernier spot, qui jouent le dernier match un contre l'autre. C'était quand même assez fou. L'Avalanche avait gagné le match, mais Saint-Louis, avec les acquisitions qu'ils ont faites cet été, je dirais que l'échange, ils sont allés chercher Ryan O'Reilly de Buffalo, que j'ai dit précédemment. Ceux qui ont donné quelques joueurs, je pense que c'est Berglund qui ont donné et j'ai un blanc. C'est ce qui arrive quand tu ne mets pas trop de notes. Mais ouais, c'est du cas. Ils sont allés chercher Ryan O'Reilly. Puis je me dis que déjà là, juste cette acquisition-là, c'est. Ça va là, amener une dynamique au centre incroyable. C'est en plus que t'as David Perron qui a signé, il y a Tyler Bozak, l'ancien des Leafs aussi, des Maple Leafs. Disons que l'attaque de. Avec M. Tarasenko qui est excellent. J'ai pas de crainte pour les Blues. T'as la défense aussi. T'as des gars comme Jay Boumister. T'as Jakub Jirabek qui récemment. Ben. Qui a été changé aujourd'hui, je pense. Hier. Aujourd'hui. Bref. Soit qu'il y a Alex Pietrangelo aussi. Qui est le corps arrière dominant de l'équipe. Ça va dépendre de Jake Allen, en fait, j'ai l'impression. Jake Allen, c'est pas un mauvais gardien, mais ça n'a pas été le gars le plus consistant depuis le début de sa carrière. Mais le DG des Blues, je trouve que avec les moves qu'il a fait, il y a Braden Shen aussi, j'ai oublié Alexander Steen. Là, je regarde. Je me dis, je regarde le Roboto, je suis comme moi. Il y a des gars que j'oublie là-dedans. Fabry, Barbashev, c'est. Ils ont une très bonne équipe. Ils ont une très bonne équipe. Fait que c'est pour ça que je les vois tellement en troisième position. En quatrième, je vois l'Avalanche. L'Avalanche qui a surpris tout le monde l'année passée, que tout le monde se disait, bon, ils ont été pourris ben raides. Ils vont se mettre encore pourris ben raides cette année. Comme les Devils et les Golden Knights, qui c'est une équipe d'expansion, mais ça n'a pas été le cas. J'étais bien content. Ils ont fait des séries sur la peau d'une fesse. Mais le noyau de joueurs est quand même, t'sais, ils ont beaucoup d'espace sur leur masse salariale. Il y a beaucoup de joueurs qui sont, ben... Le noyau est resté là, je veux dire. Nathan MacKinnon a eu la saison de sa vie l'année passée, justement, qui s'est battu avec Taylor Hall pour le Art Ross. Non, le Art. J'ai dit Art Ross. Non, pas. Le Art. Pas le Art Ross. Désolé. Mais, fait que c'est ça, c'était assez incroyable. C'est Mikko Rantanen, t'as des gars comme Gabriel Landeskog, justement. Ou t'as des jeunes joueurs qui vont éclore aussi, t'sais, à la Tyson Jost, qui jouait l'année passée, qui est un Alexander Kerfoot. C'est des gars qui sont encore très jeunes, qui ont un potentiel offensif assez non négligeable. Ou un gars comme Kamenev qui ont obtenu justement l'année passée de l'échange avec Matt Duchene. C'est l'Avalanche. Joe Sakic, honnêtement, il a sauvé sa job en faisant cet échange-là. C'est incroyable avec le retour qu'il y a eu. Puis en plus, là, il y a, comme je disais tantôt, quand on parlait de sénateurs, ils ont le premier choix des sénateurs cette année. Puis je m'attends à ce que. Ben, yeah. Je pense que tout le monde s'attend à ce que les sénateurs vont finir dans la cave, on veut se le dire. Désolé si vous êtes un fan des sénateurs, mais. Avec ce qui se passe, disons que c'est dur d'être optimiste à Ottawa en ce moment. Je suis pas mal sûr qu'il y a bien des fans qui veulent la peau de John Melnick. Je les comprends à 100%. C'est n'importe quoi. Là, justement, j'ai pas parlé des depths de l'Avalanche, mais t'as des gars comme Tyson Barry. Samuel Girard, qui est encore très jeune l'année passée, qui a joué très bien, qui va juste s'améliorer, je crois. Des vétérans comme Eric Johnson. Même les anciens du CH, Barbara Yo puis Sven Andrighetto, ils n'ont pas été mauvais. Un gars comme Zadorov qui est très physique. Une jeune équipe encore, mais qui a eu l'expérience des séries l'année passée. Ils ont perdu contre Nashville en première ronde. Mais justement, c'était une expérience d'apprentissage. Puis je crois qu'ils vont pouvoir continuer. Ils vont peut-être finir loin parce que je trouve que la division centrale est vraiment adulte. Non. Les derniers spots, là, les derniers emplacements pour faire les séries, ça va être assez difficile. Là. Honnêtement, il y a beaucoup de profondeur dans la centrale. Fait que ça... En tout cas, on va bien voir ce qui va se passer. Puis justement, Varlamov est toujours blessé. Là, justement, c'est vrai, j'ai oublié de dire, c'est vrai, ils ont été chercher. Ben, ils ont signé Ian Cole, Matt Calvert, puis Philippe Grubauer, qui était le gardien numéro 2 des Capitals. Donc, ça sera à suivre de ce côté-là. Fait que l'Avalanche, je les vois quatrième. Ensuite, en cinquième place, les Stars. Les Stars, là, récemment, ils ont signé Tyler Seguin pour 8 ans. Donc, disons qu'avec ça, cette signature-là, ça prouve que ils voulaient pas perdre Seguin, puis je le comprends. Je veux dire, Seguin, c'était un joueur incroyable. C'était un game changer. C'était un gars qui a un potentiel offensif incroyable. Le gars que tu prends dans ton pool, puis tu sais qu'il va faire beaucoup de points, là, c'est une valeur sûre. Je viens de checker l'année passée, 78 points. Le gars a jamais. Il y a tout le temps minimum 70 points. Fait que tu sais que c'est une valeur sûre. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas juste lui. Il y a Jamie Benn. Il y a Radulov. Il y a John Klingberg. Et il y a d'autres joueurs aussi. Il y a Miro Heiskanen qui va commencer, que j'ai vu sur Facebook aujourd'hui, qui ont annoncé. C'est leur premier pick de cette année, l'année passée. 2017. Le premier choix qui est un défenseur finlandais. Fait que j'ai hâte de voir. Ils ont des bons morceaux. Il y a des bons morceaux à Dallas aussi. Ça va être intéressant à voir. Fait que ils vont se battre pour le wild card. Je vous dis, ça va être qui mes wild card après, là, mais ils vont être dans la lutte, évidemment. Puis j'ai moi en 5e place, la division centrale. Après le Wild, je sais pas pourquoi je vois le Wild aussi bas, parce que le Wild a quand même une très bonne saison l'année passée, honnêtement, vite de même. Il y a eu 101 points pareil, mais je trouve que, je sais pas, on dirait que je vois l'équipe avoir une année un peu plus en dents de scie. Mais je dis ça, mais t'sais, ça se peut qu'ils vont encore. D'après moi, ça se pourrait qu'ils font les séries quand même. Dans le fond, ils vont peut-être finir très haut, puis je vais faire fuck, je suis cave. Mais en tout cas, on verra bien. T'sais, je veux dire, ils ont encore des micros, croyez-vous. Eric Stahl a eu les 16 ans. Depuis qu'il est arrivé avec les Wild, c'était comme un reset, vraiment. C'était incroyable, là, je veux dire. Avec la Caroline, il y a eu de très bonnes saisons, Eric Stahl. Mais là, ça fait quoi? Ça va être la troisième saison en Minnesota. Ouais, ça va être de quoi suivre. Ils ont quand même des bons jeunes aussi, comme justement des gars qui vont être intéressants à suivre, genre ben je dis jeune, tu sais, genre des genre Eriksson Ek, genre de voir qu'est-ce qui va se passer avec lui. Ils ont pas des très grosses attentes. Zach Parise, c'est toujours le point d'interrogation, il est souvent blessé. Parise, c'est un bon joueur, mais il est beaucoup susceptible aux blessures. T'sais, à la défense, c'est sûr qu'ils ont Ryan Suter. Ils ont des gars comme Jonas Brodin. Ils ont signé Patrin. Ils ont Matt Dumba. Ils ont Spurgeon. Ils ont quand même une très bonne défensive. J'ai hâte de voir si Dubnyk va être capable de tenir le fort cette année. Je sais pas, je trouve qu'avec avec les ajouts que les autres équipes ont fait dans leur division. T'sais, comme Saint-Louis a fini bien loin le Wild l'année passée, mais je pense que Saint-Louis s'est fait bon, ok. On a passé à un match de faire les séries l'année passée. Ça se passera pas de même cette année. On va juste aller faire les acquisitions qu'il faut. Justement, c'est pour ça que Saint-Louis, s'il avait pas fait ces acquisitions-là, je pense pas que je verrais Saint-Louis en série. Mais justement, avec les acquisitions qu'ils ont faites, j'ai pas le choix. Je me dis, ouais. Puis tu sais, je me dis qu'une équipe comme l'Avalanche, justement, c'est une jeune équipe. Il y a 2 ans, 48 points. L'année passée, ils ont quasiment fait le double de points. Ben, sûrement, 95. Bon. Ils ont fait x2 dans le nombre de points. Fait que, c'est... Ils ont brouillé les cartes dans la division, ça c'est clair et net. Parce que même les Stars, ils étaient dans la course jusqu'à la fin à faire les séries aussi. Ils ont fini à 3 points de l'Avalanche. C'est une lutte assez intéressante. Mais t'sais. Que, j'ai hâte de voir. Fait que le Wild, pour revenir à ça, je trouve qu'on dirait qu'ils ont comme resté sur le neutre un peu. Une très bonne équipe encore. Il y a des bons éléments. Mais il y a des bons joueurs qui susceptibles d'avoir des blessures. C'est Dubnyk. C'est on and off un peu, je trouve, côté performance. En tout cas, on va bien voir. Peut-être qu'ils vont me démontrer autre chose. Tant mieux si c'est le cas. Mais je les vois finir 6e de la division. Puis ça fait bizarre à dire, mais le dernier, je vois Chicago. Chicago, l'année passée, ils ont eu beaucoup de misère. Je veux dire, quand même des gars comme Patrick Kane, Jonathan Taves, ils ont Duncan Keith, Brent Seabrook. C'est sûr que ces gars-là vieillissent pareil, tu sais, un peu. Un peu beaucoup. Un peu, oui. Un peu, oui. Il va falloir que je le plug dans le podcast. Le premier épisode, un peu, oui. Check. Mais non, c'est ça. Pour revenir aux choses sérieuses, c'est ça, Chicago. Comment je pourrais dire? L'année passée, ce qui leur a fait mal, surtout, c'est que Kyle Crawford s'est blessé longtemps. Puis c'est c'est ce qui a fait que Chicago il cherchait d'un but. Ben, tu as l'histoire de Scott Foster. Les gardiens se blessaient tellement. L'emploi, je sais plus c'est quoi son emploi par rapport au blackout. Genre, je pense que c'était un comptable ou quelque chose du genre. Justement, c'était un gars qui collait dans des. Gardait les buts dans des ligues de bière, genre, qui s'est amené à faire un match, ben une période en fait, parce que tous les gardiens étaient blessés des Blackhawks, qui est quand même fou. Qui a quand même gagné le match contre les Jets, me semble, puis ils ont gagné genre 6-2. Mais il avait quand même pas donné de but. C'était quand même une des histoires, je pense, ben alors, c'était l'histoire feel good, on va dire, de l'année passée de la Ligue nationale de hockey. La légende de Scott. La légende de Scott Foster. Mais justement, c'est une autre équipe qui a pas fait tant d'acquisitions incroyables cet été non plus. Ils n'ont pas eu Cam Ward. Peut-être Cam Ward en support à Corey Crawford, le Montréalais Corey Crawford. Mais peut-être qu'un changement de scénario pour Cam Ward. On se rappelle Cam Ward quand il a débuté dans la Ligue nationale il y a 12 ans, 11 ans. Quand même gagné la Coupe Stanley à sa première année. Il me semble que c'est sa première année avec la mythique finale entre les Hurricanes de la Caroline et les Oilers d'Edmonton que tout le monde se souvient incroyablement en 2006. Ouais, c'était après le lockout. Bref, ouais, cette finale-là, c'est une finale what the fuck. Je veux dire ça demain, c'était une finale what the fuck littéralement. Mais c'est sûr que ça va amener une certaine stabilité comme gardien de but parce que justement Crawford l'année passée ça a vraiment fait mal. Mais justement, l'équipe Chicago, il y a quand même des joueurs aussi dans le futur à avoir de l'espoir. T'sais, ils sont allés chercher Brandon Saad contre Panarin. Saad, il offre quand même des bonnes choses. Mais t'as un gars. Mais l'année passée, ça, c'était Alex DeBrincat qui était, je dirais, la révélation. DeBrincat qui était repêché quand même un choix de deuxième ronde des Blackhawks. Il a eu 52 points l'année passée. Fait, en tout cas. Mais je crois qu'avec ce qui s'est passé, puis que Chicago a quand même stagné quand même, je les vois finir dernier la conférence. La division, excusez. Pas la conférence, mais la division. Mais, tu sais, ça pourrait. C'est une division qui pour les positions pourraient changer un peu aussi. Mais j'ai hâte de voir. Honnêtement, j'ai hâte que la saison commence pour voir qu'est-ce qui va se passer. Fait que pour faire un résumé court, Too Long Didn't Whatever. Winnipeg en premier, Nashville, Saint-Louis, Colorado, ensuite de Dallas, Minnesota et Chicago pour la division centrale. Et finalement, la dernière et non la moindre, la division Pacifique. Il y a peut-être un mois de ça, ça aurait été différent, les prédictions. Mais avec ce que Vegas et San Jose ont fait comme mouvement récemment, ça a brouillé les cartes pas mal dans la division Pacifique. Bref. Comme premier, tu sais, l'année passée, quand tu regardes le classement, c'est Golden Knights qui ont fini premier, à la grande surprise de tout le monde. Ensuite, les Ducks, les Sharks, les Kings, les Flames, Edmonton, les Oilers, les Canucks et les Coyotes. Cette année, je vois les Sharks finir premier. Je m'explique. Ils ont fait l'acquisition d'Eric Carson. Avec une défensive qui avait déjà Brent Burns. Marc-Édouard Vlasic, Brendan Dillon, Justin Brown. Honnêtement, je parlais de la défensive de Nashville tantôt, une des meilleures. Là. Je pense que San Jose est la meilleure défensive de la ligue. Honnêtement, c'est fou. Avec Martin Jones début, Martin Jones qui est un excellent gardien de but. C'est les Sharks sont rendus il y a deux ans contre les Pingouins en finale. Puis ils ont perdu. Puis là, justement, avec Patrick Marleau qui avait quitté pour Toronto, tu disais, bon, est-ce que les Sharks commencent? C'est Joe Thornton et sa barbe est assez blanche, là, je veux dire. Un gars qui était repêché en 98, là, 97 ou 98. Bref, le gars, il a grandi à 40 ans. Mais en même temps, quand on regarde l'attaque, ils sont allés chercher Evander Kane à la date limite des échanges de l'année passée qui a re-signé. Fait que, en plus, t'as Joe Pavelski, t'as Thomas Hertel, t'as Logan Couture, t'as. Timo Meyer, ils ont une attaque incroyable. Puis je trouve que l'échange qu'a fait à Ottawa, honnêtement, Pierre Dorion, je sais pas ce qu'il a fumé cette journée-là, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais. Les Sharks sont orientés pour Carson, honnêtement, c'est. C'est n'importe quoi. C'est sûr que Carson, s'il ne re-signe pas avec les Sharks l'année d'après, on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais pour l'instant, cette année, hey boy, je l'ai mis premier de la division. Je sais que cet échange-là, il n'y a pas eu Carson, je me disais, bon, entre la prochaine équipe que je vais parler, puis les Sharks, ok, c'est plus, ça se débat plus, ça va être serré. Ben, ça va quand même serré, je pense, mais justement, avec un ajout d'une vedette comme Eric Carson à San Jose. Ouais, les Sharks ont fini le premier, à mon avis. Fait que les Sharks premiers. Ensuite, l'équipe contre qui ils vont se battre. Ben, j'ai mis les Golden Knights. Je vais expliquer. Les Golden Knights, je sais pas si William Carson va encore faire une quarantaine de buts. Mais ils se sont donné les arguments cet été pour aller chercher. Ils ont signé Paul Stastny, qui est quand même une bonne signature. Qui ont volé aux Jets. Que les Jets avaient été chercher des Blues. Parce que les Blues se faisaient pas les séries. Ben, je me dis que les Blues s'attendaient pas à faire si on tradait Stastny, il était comme ouais. Ben, il est agent libre. Hein. Il est agent libre, donc en même temps, c'est un peu normal. Il essaie d'avoir de la valeur pour ce qui est tout à fait normal. Mais justement, avec les gens avec Pacioretty, c'est sûr que Pacioretty avec les Golden Knights, ça va être dangereux pour un gars qui est capable en moyenne de compter que 30 buts par année. T'en as pas des milliers dans la ligue. Puis justement, Pacio, je pense qu'il va être une pièce maîtresse dans l'attaque des Golden Knights, ça c'est sûr et certain. C'est des gars comme Paul Stastny, t'as Marchessault qui a une saison incroyable l'année passée, William Carson, Riley Smith qui a une très bonne saison, t'sais. À def, tu check leur défensive, t'es comme, ouais. Ces gars-là sont rendus à la Coupe cette année. Ben ouais. C'est dommage, chez Theodore, il a re-signé, t'as Braden McNabb, Engelhan, Colin Miller, John Miro. Dans les buts, évidemment, t'as Marc-André Fleury. Marc-André qui a une saison incroyable l'année passée aussi. C'est ça. Je me dis que les Golden Knights, ils ont fait de très bonnes acquisitions. Puis je trouvais que la façon qu'ils jouaient, t'sais, justement, il n'y a pas tant de vedettes, mais ils jouaient très... Quand on regardait les Golden Knights jouer, je trouvais qu'ils jouaient beaucoup en équipe. Je sais que ça sonne stupide à dire quand on regarde du hockey, tu dis « Ouais, mais là, il y a 31 équipes, ils jouent en équipe. » Mais je peux pas dire que leur style de jeu ne commettait pas beaucoup d'erreurs, les Golden Knights. C'était... Il était pas. Il faisait pas des jeux, comment je pourrais dire, high risk, peut-être. High risk, high reward. Il était conscient de leur talent, justement. Il était très bon en défensive, très bon en attaque. Le mix parfait, c'est pour ceux qui ont en même temps, ils étaient capables de surprendre tout le monde durant la saison et tout le monde durant la série. Puis je pense que ça va continuer. Ils ont le vent dans les voiles, honnêtement. Je pense qu'ils vont faire les séries encore cette année. Fait que je les vois deuxième. Ensuite, les Kings. Les Kings, c'est une équipe vieillissante. Les Kings de Los Angeles. Ils sont allés chercher Ilya Kovalchuk. Le retour au Bercail, mais retour dans LNH de Ilya Kovalchuk avec les Kings. Qui va avoir des choses à prouver. Mais je pense qu'il joue très bien dans la KHL, dans la Ligue russe. Donc je me dis que c'est sûr qu'il se fait vieillissant. Le Kovalchuk doit avoir 35 ans. Plus le Kovalchuk des beaux jours, mais je pense qu'il va quand même être une pièce assez. Un joueur assez à surveiller du côté des Kings. Puis le Kopitar est encore incroyable, Anze Kopitar. T'as des gars comme Tyler Toffoli, t'as Jeff Carter qui est pas à sous-estimer. Je veux dire, il y a plein, Adrian Kempe, il y a des gars, t'as Jeff Carter. T'as la défensive, ils ont signé Drew Doughty pour très longtemps. Ils ont Dion Phaneuf aussi, tu sais. Je sais que les gens aimaient bien haïr Dion Phaneuf, mais t'as un vétéran qui fait quand même encore la job. Jake Muzzin, qui était dans les rumeurs pour Pacioretty. Je sais pas si c'est vrai finalement, ben, en tout cas, on le saura jamais. Mais Muzzin, qui était quand même un excellent défenseur. Puis c'est sûr que t'as Jonathan Quick dans les buts, qui est un gardien qui a déjà remporté la Coupe Stanley, justement. C'est une équipe qui est vieillissante, mais qui a fait ses preuves. Puis je pense que, justement, cette année, ils ont des chances. Je les vois faire les séries encore, les Kings. Je dirais pas que c'est des... dans les tops pour faire... ils aspiraient à la coupe, mais je me dis que rendu en série, il peut se passer n'importe quoi. Puis les Kings ont une profondeur qui leur permet justement de surprendre des équipes, de battre des équipes dans la division Pacifique. Fait que les Kings 3e. Ensuite, c'est ça que je trouvais le plus tough dans la division Pacifique. Après, je trouvais que le top 3 était quand même, ben, selon moi, assez obvious, assez... facile à déduire, peu importe l'ordre. Je pense que c'est les trois équipes que pas mal bien des gens, t'sais, les gens pourraient dire, mettons, LA à Nevada Vegas ou whatever, mais je pense que c'est pas mal le top 3 que pas mal bien des gens prédisent, en tout cas en termes des équipes, pas nécessairement de l'ordre. Ensuite de ça, c'est ça que je trouvais le plus difficile. Qui c'est qui va finir 4e dans cette division-là? Puis, je crois que les Flames, avec les acquisitions qu'ils ont faites cette année, sont mis en très bonne position pour finir 4e. Mais les Flames sont quand même battus pour les séries. Ben, ils sont battus un petit bout, mais à la fin, ils ont manqué de gaz un peu. Mais je crois que les Flames, avec les acquisitions, c'est l'échange qu'ils ont fait avec les Hurricanes de la Caroline, avec pour aller chercher Noah Hanifin, Elias Lindholm. Bon échange pour eux autres, honnêtement. Il y a de l'espoir avec les Flames. Je veux dire, avec Johnny Gaudreau, Monahan, Backlund, Giordano, c'est sûr qu'il vieillit un peu, mais là, TJ Brody, Matthew Tkachuk, Mike Smith qui commence à se faire vieux aussi, mais en même temps, je pense que les Flames, puis James Neal, c'est vrai, ils ont des Golden qui a eu une très bonne saison avec les Golden Knights l'année passée quand même. Ben, comptez quand même une vingtaine de buts. Ce qui est quand même non négligeable d'un offensif comme ça. Fait que je me dis, les Flames vont surprendre des gens, je pense, cette année. Puis je les vois finir 4e. Là, vous me dites, là, tu fais quoi avec Anaheim? Anaheim, je les ai mis 5e. Parce qu'Anaheim, déjà récemment, Corey Perry va être absent pour plusieurs mois. Ça a fait mal un peu. Je trouve que ça va faire mal. C'est sûr qu'Atila a fait une bonne saison l'année passée. T'as des gars comme Adam Henrik, t'as des Cogliano, ou des Rackle, des Silverberg. Ils ont des bons éléments à l'attaque, pareil. T'as la défensive, t'as Amphus Lindholm. T'as un autre Lindholm, pas Elias, mais Amphus. Mais t'sais, c'est ça. T'sais, t'as Cam Fowler, t'sais, t'as John Gibson de début. Mais je pense que, justement, le manque d'acquisition des Ducks fait que je les vois un peu plus bas. Surtout que la blessure de Corey Perry, qui va faire mal... Je vais juste regarder les statistiques des joueurs des Ducks l'année passée. So, Rackle, ouais, c'est Rackle a eu une très méchante bonne saison. C'est ça, c'est Burber, ouais. Cassie, ouais. Josh Manson. Ok, bah, en tout cas, je crois que les Ducks vont baisser un peu au classement puis vont se battre pour les séries. Fait que je les vois 5e de la division Pacifique. Ils vont se battre pour être dans Wildcard, ça c'est sûr. Ensuite de ça, Edmonton, les Oilers. Les Oilers, des gens qui vont dire que c'est le McDavid show. En même temps, McDavid a tellement eu une saison de fou. Ben, depuis qu'il est dans la Ligue nationale en général, c'est un homme qui produit beaucoup de points. C'est un joueur incroyable. C'est Leon Draisaitl, t'as Ryan Strome. Il doit s'ennuyer des Brolys un peu. Puis c'est avec l'échange Taylor Hall contre Larson. Ouais. C'est ça que tu dis. Edmonton, ils ont des très bonnes pièces. Mais au final, parce que j'ai hâte de voir ce qui va se passer cette saison. Parce qu'il y a quand même des joueurs qui vont être intéressants à surveiller, comme mettons Yamamoto. Kyler Yamamoto qui est en espoir. Ils ont signé Ty Rutty qui a joué très bien joué en pré-saison avec McDavid, justement. Ils ont signé Alex Chiasson aujourd'hui, en plus, pour avoir la profondeur. T'sais, ils ont Milan Lucic, qui paye beaucoup trop cher, à mon avis, mais t'sais, en tout cas. Ils ont repêché Evan Bouchard l'année passée, ben, cet été. T'sais, à la défensive, ils ont Darnell Nurse, t'as Larson, t'as Clefbaum. Ils n'ont pas des mauvais éléments, mais je pense pas que les... Ça va dépendre... Si les Oilers vont être aspirants à faire les séries, ça va dépendre de Cam Talbot aussi, je pense. Cam Talbot a une saison en dents de scie l'année passée, comme dans les buts. Mais son équipe n'a pas aidé non plus. C'est sûr que Draisaitl et McDavid ont des saisons titanaires. Mais quand tu restes le reste de l'équipe, tu te dis, ouais, il y a pas mal de place à l'amélioration. Et je me dis, bon, je les verrai finir 6e de la conférence. La division. J'ai dit tant conférence, mais c'est division. Division. Fait que c'est ça, Edmonton 6e. Ensuite, il reste deux équipes. Arizona puis les Coyotes. Enfin, je dis Arizona puis les Coyotes. Arizona va couvrir. les Coyotes, je les vois finir avant-dernier. Ils ont une excellente deuxième moitié de saison l'année passée. Puis je pense que les Coyotes, je les place très bas dans le classement. Mais ils vont peut-être surprendre des. C'est le genre d'équipe que je verrais qui pourrait surprendre cette année, honnêtement. T'sais, là, je dis, bon, ils vont finir dans la cave de leur division. Alright. Clayton Keller. Ah, c'est un bon joueur. T'sais. Ils ont Derek Stepan. Ah, ok, c'est pas si pire. Ah, ils ont Ekman Larson à la défensive. T'sais, il est fiable. Ils ont des éléments quand même intéressants, je peux dire. À part ça, ils sont allés chercher Alex Galchenyuk contre monsieur Max Domi. J'ai hâte de voir que, j'espère que Galchenyuk sur un autre marché va s'éclore, qui va mieux produire, qui va avoir des meilleures saisons, en tout cas, on va lui souhaiter. On espère que ça va être une bonne échange pour les deux équipes, justement. Anti Ranta, j'ai hâte de voir comment il va se comporter dans les filets des Coyotes. Ça, c'est sûr que ça va être un autre point d'interrogation. Mais bon, tu sais, je veux dire, l'Arizona, ils ont un noyau de joueurs très jeunes. Je pense qu'ils vont finir loin au classement cette année, mais ils commencent tranquillement à monter la côte. Fait que c'est pour ça que je les vois les terminer au 7e rang. Ce qui n'est pas le cas pour la dernière équipe que je vais vous parler, les Canucks. Les Canucks, je les vois terminer dernier de division. Mais en même temps, je me dis, c'est sûr que les Canucks en plus, ça fait quelques années qu'ils sont en reconstruction. Là, les Sedin ont pris leur retraite. C'est pas la même chose en tout. Là. C'est une équipe qui est en reconstruction, littéralement. Ils n'ont pas été chanceux les dernières années dans les repêchages, je trouve. Dans les loteries. Fait que je me dis, là, cette année, les Canucks, là, vous êtes dus. Vous êtes dus pour être dans la cave et avoir un bon pic. Dans le top 3, là. Ça suffit, là. C'est les Canucks ont eu des difficultés récemment, là. C'est le temps qui pogne. Ils ont des camps de très bons jeunes joueurs. T'sais. L'année passée, Brock Bowser, avant qu'il se blesse, il était dans la lutte avec Matthew Barzal pour le trophée de recrue de l'année. Définitivement, avant qu'il se blesse. T'sais, des joueurs, t'as des gars comme t'as Bowser, t'as Bo Horvat, Virtanen, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec lui cette année. Ça va être des questions à se poser. Peut-être t'as Edler, t'as Barchi, c'est sûr que t'sais, Goldobin. Je regarde les joueurs, t'sais, ils sont pas mal. Des gars comme Louis Eriksson, des points d'interrogation. T'sais, ils ont signé Antoine. Qui ont signé? Non, c'est comment il s'appelle? J.B. Gold. Les agents libres, ils ont des gars comme Tanev à la défense, Gudbranson, Edler, DeZotto. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec les Canucks, mais selon moi, je pense pas qu'ils vont avoir une très bonne saison. Je me dis, pour le bien de la franchise, je pense que ce serait bien qu'ils finissent dans la cave pour avoir un bon choix repêchage cette année. Je dis pas qu'ils ont eu des mauvais choix repêchage des autres années précédemment, mais ils sont dus pour. Je les vois finir très bas. Ils vont se battre avec. Ils vont quand même être meilleurs qu'Ottawa. Ottawa, je pense, c'est vraiment les pires. Genre, et de loin. Je regarde les équipes, mettons, j'ai mis Ottawa, les Islanders, Chicago, Vancouver. Ah, Ottawa, c'est les pires. La pire des quatre. Des quatre last place, des derniers poutis. Pour résumer, comme j'ai fait avec les autres, San Jose, Vegas, Los Angeles, Calgary, Anaheim, Edmonton, Arizona et Vancouver. Puis les wildcards dans l'Ouest. J'ai mis Colorado et Dallas, les deux centrales. J'ai l'impression que la division centrale est vraiment beaucoup plus compétitive que la division pacifique, à voir qu'est-ce qui s'est passé, les ajouts des équipes. Mais je serais pas surpris que les Flames brouillent les cartes là-dedans aussi. Même Anaheim aussi, tout dépendant de. Mais comme je disais, Corey Perry, ça va être difficile, un peu difficile quand tu perds un joueur de cette. C'est sûr que là, tu sais, l'année passée, il n'y a pas une saison du tonnerre, mais Perry, c'est un gars qui est capable de compter des buts encore, puis je me dis. Au début, il fait quand même un gars qui va faire au moins 5, une cinquantaine de points par année, ça paraît. Là. Il prend. Il n'y a pas une pente ascendante. Getzlaff aussi commence à être plus vieux. Il était blessé l'année passée en plus, mais bon. Je pense qu'ils vont se battre là-dedans. Mais je vois Colorado et les Stars comme les deux wildcards. Fait que je verrais. Dans le fond, il y aurait 5 équipes de la centrale puis 3 équipes de la Pacifique en série dans l'Ouest. À mon avis. Fait que. C'est ça. Dans le fond, les prédictions. J'allais dire qui c'est qui finirait premier au général. Eh, c'est dur à dire. Je dirais peut-être les Sharks. Je dirais que les Sharks. J'aime les Sharks qui ont fait cet été comme mouvement. Rossini King, le Carson. C'est pas des mouvements. On va chercher un gars de 4e trio, un 7e défenseur. On va chercher un gardien substitut. Non, non. On va chercher un. Ben, quoi. Kane, c'était à la date limite des échanges, mais c'est leur signé quand même. Carson, bon, ok. Bon, on a Brent Burns, Vlasic, Dylan, that's good. Ça va être dangereux avec les Sharks. Fait que, je dirais les Sharks premier général, honnêtement. Fait que, ça ferait le tour de ce premier épisode du temps d'une gaufre. La première gaufre a quand même été longue. On passe le 1h déjà. Fait que j'espère que m'écouter, ça vous a plu. Fait que je vais faire d'autres épisodes là-dessus. Je sais pas, le prochain épisode, je vais parler de quoi. Il faudra que j'y pense. Parce que je vais y aller selon le feeling, honnêtement, du moment. Qu'est-ce que je vous dis. Mais comme je vous dis, il va y avoir d'autres sujets, justement. Comme on va parler d'actualité, on va parler de jeux vidéo, on va parler de différentes thématiques selon le moment. Mais là, avec les timings de la Ligue nationale de hockey qui commence, je me disais que c'était propice à ça. J'avais le goût de s'en parler. Ça faisait un bout que j'en avais pas parlé en détail comme ça. Fait que je me dis, je vais vous dire merci d'avoir écouté. Puis on se revoit à un prochain épisode du temps d'une gaufre. Le temps d'une gaufre. Pas du temps d'une gaufre, mais le temps d'une gaufre. C'est mieux de moi. Bye bye.